Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansoir, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Nouvelle série consacrée aux villes, des lieux de vie évidemment, mais aussi des lieux de pouvoir. Le nouvel empire des villes, c'est notre sujet cette semaine. Demain, alors que Donald Trump a quitté l'accord de Paris sur le climat, les villes américaines peuvent-elles prendre le relais dans la lutte contre le réchauffement climatique? Mercredi, on s'intéressera au courant du municipalisme et aux villes comme laboratoire de l'innovation politique. Jeudi, enfin, nous nous intéresserons à la concurrence mondiale pour attirer les touristes et pour gagner la bataille du rayonnement culturel. Mais tout de suite, parlons d'une dynamique qui a déferlé partout sur le globe, la métropolisation. Nos villes grossissent, mais jusqu'à quand se dirige-t-on vers un essoufflement du processus de métropolisation? C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Cette photo a été prise en 2002. Ici, il y avait un champ de colza avec plein de fleurs, et ici ma maison. 20 ans plus tard, il y a tous ces immeubles. Cet endroit est devenu la zone la plus fantastique, le plus beau quartier du district.
Ici, tout a été construit sur l'eau. En 2000, ils ont créé tout cet ensemble d'îles. Il y a le train qui passe au-dessus de l'eau et ils continuent de construire des immeubles. C'est incroyable.
Lorsque sera achevée la ville d'Ico-Atlantique, elle ne bénéficiera pas seulement aux promoteurs, mais aussi à la nation, afin de promouvoir le tourisme et le bien-être. Les villes nouvelles sont bonnes, elles sont géniales. Les villes nouvelles nous aident à améliorer nos réflexions et nos analyses. Et c'est en ce sens que le gouvernement a pleinement soutenu la construction d'Eco Atlantic City.
Shanghai, Dubaï, Lagos, partout les villes s'étalent. Depuis les années 70, les villes se développent, concentrent toujours plus de population, d'activités et de pouvoir au point de devenir les centres névralgiques de nos sociétés. Aujourd'hui, les villes génèrent plus de 80% du produit intérieur brut mondial et quasiment 40% pour les seules 10 plus grandes régions urbaines dans lesquelles vivent plus de la moitié de la population mondiale. Alors si l'urbanisation augmente la croissance, la productivité, qu'elle favorise l'innovation, elle s'accompagne également de nombreux défis en matière de logement, de transport, d'infrastructures en tout genre et ne sont pas sans poser problème, notamment en ce qu'elles produisent de l'inégalité et de l'exclusion. Et d'ailleurs en France, les Gilets jaunes dénonçaient précisément justement cette inégalité territoriale. Alors peut-on continuer à renforcer les pouvoirs et les moyens des villes? Jusqu'où la métropolisation peut-elle aller? Jusqu'où sera-t-elle encore viable, souhaitable? Et d'ailleurs, aurions-nous déjà atteint un point de bascule? Le phénomène par exemple du retour dans les campagnes en serait-il les prémices? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité évidemment un géographe, Michel Lussault, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'ENS de Lyon et puis directeur de l'école urbaine de Lyon. Votre dernier ouvrage en date, Hyperlieu, sous-titré « Les nouvelles géographies de la mondialisation » qui était paru au Seuil. Évidemment, la mondialisation, on va largement en parler puisqu'on parle des villes et particulièrement des métropoles, Michel Lussault. Quand on parle de métropole, de métropolisation, bon, c'est vrai qu'on mélange un peu tout, hein, urbanisation, zone urbaine, ville, métropole. Est-ce qu'on peut déjà commencer par faire un tout petit peu de travail de définition, Michel Lussault, et comprendre ce qu'est une métropole? Qu'est-ce qu'on a derrière comme critère? Quelle différence entre une métropole et une ville?
Voilà, mon Dieu, on commence déjà avec quelque chose de difficile parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas véritablement de définition satisfaisante de la métropole. Et donc, il faut peut-être recadrer un peu les choses. L'urbanisation est un processus général, englobant. C'est le processus le plus marquant de ces 70 dernières années. On peut même considérer que l'urbanisation, c'est la force principale de la mondialisation. Ce que l'on appelle la mondialisation, il faut considérer qu'il s'agit en vérité d'une urbanisation du monde. Partout, l'urbanisation s'impose. Elle est généralisée à toutes les sociétés et elle est globalisée à l'échelle du monde. Et en étant globalisée à l'échelle du monde, elle concerne également toutes les tailles d'espace. du plus petit lieu jusqu'à la Terre, tous les espaces sont concernés synchroniquement par un processus d'urbanisation qui est d'une puissance que l'on n'avait jamais connue auparavant. C'est en 2008, d'ailleurs, que pour la première fois depuis l'enclenchement de l'humanisation de la Terre, le nombre d'habitants dans les villes est devenu plus important que le nombre d'habitants dans les campagnes. Ça a été très vite, puisque en 1900, il y avait encore à peine 15% d'urbains. Aujourd'hui, c'est 57%, et en 2050, ça sera pas loin de 70%. Dans le même mouvement, on a constaté depuis 1900 une croissance des grandes villes. Il y avait 16 villes de plus d'un million d'habitants en 1900. Très peu. Il y en avait 320 en 1997. Beaucoup plus. Il y en a au moins 650 aujourd'hui. Il y en aura certainement pas loin de 1000 en 2050. Donc, c'est en première analyse une manière d'appréhender ce que l'on pourrait appeler un mouvement de métropolisation, cette fois-ci considéré simplement sous l'angle statistique. La métropolisation, ce serait ce mouvement qui, au sein de l'urbanisation, pousserait les plus grandes villes à connaître une croissance très forte et nous conduirait à observer de plus en plus de grandes villes millionnaires et même au-delà, avec même au sommet de cela, l'apparition d'un très grand nombre de très grands amas urbains qu'on appelle les mégapoles, plus de 10 millions d'habitants, qui également croissent en nombre. Il y en a aujourd'hui plus de 50.
Est-ce qu'il suffit de dire qu'une ville à plus d'un million d'habitants, parce que c'est ce que vous disiez à l'instant, devient de facto une métropole, ou est-ce qu'il faut autre chose à une métropole pour qu'elle devienne une métropole précisément? À une ville, pour qu'elle devienne une métropole.
L'approche statistique est intéressante pour mesurer la puissance d'un mouvement, mais en réalité, elle est insuffisante parce que elle ne doit pas nous conduire à masquer un certain nombre de réalités. Première réalité, l'urbanisation du monde se fait aussi via des unités urbaines plus petites. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe, le mouvement d'urbanisation passe par des unités urbaines, des villes petites, moyennes. En Afrique, aujourd'hui, la croissance la plus forte est plutôt dans les villes de 500 000 à 1 million d'habitants. Donc, première chose, il ne faut pas confondre urbanisation et apparition des grandes villes, même si elles sont très spectaculaires et très importantes, avec des amas colossaux. On dit la région urbaine de Shanghai, 80 millions d'habitants, le delta de la rivière des Perles, Shenzhen, Canton, Macao et Hong Kong, 80 millions d'habitants, Tokyo, 37 millions d'habitants. Oui, ça dépasse l'entendement, bien sûr, mais il ne faudrait pas s'arrêter à cela. Deuxièmement...
Ça veut dire, si je vous entends bien, c'est que, bien sûr, le phénomène de métropolisation est un phénomène global, mais en réalité, quand on regarde les choses, il est aussi différencié. Ça dépend des régions desquelles on parle, de l'Asie, de l'Afrique, on ne parle pas de la même chose.
Regardez, en France, il n'y a qu'une commune urbaine, une ville qui a plus d'un million d'habitants. Ensuite, il y a des aires urbaines qui ont plus d'un million d'habitants, mais Marseille fait 800 000, donc est statistiquement en dessous de ce seuil. Lyon fait 500 000. La Suisse, par exemple, est aussi marquée par une urbanisation intense, peut-être d'ailleurs par une métropolisation intense, mais avec des unités urbaines qui sont assez petites. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que l'urbanisation, c'est un mouvement qui emporte toutes les populations et les concentre dans des tailles d'unités urbaines qui peuvent être très différentes selon les contextes. Et puis, deuxième chose, s'arrêter à la statistique, c'est perdre de vue le fait que la métropolisation, c'est peut-être moins un mouvement quantitatif qu'un mouvement qualitatif. La métropolisation, c'est peut-être, c'est ce que j'avais proposé dans un texte que j'avais écrit en 2010, c'est peut-être quelque chose qui renverrait à ce que Cornelius Castoriadis aurait appelé un imaginaire constituant ou un imaginaire instituant. La métropolisation, c'est une manière de considérer la ville, qui va plutôt privilégier un certain type d'activité, un certain type de groupes sociaux, un certain type de paysage urbain, un certain type d'attitude, et va de ce fait même susciter chez les acteurs locaux un certain type de politique urbaine. Donc on arriverait à une définition de la métropolisation qui serait un peu différente et qui consisterait à dire, finalement, partout les villes croissent et parallèlement, partout où on connaît une métropolisation, c'est-à-dire l'imposition d'un imaginaire dominant, qui va faire que même des petites villes peuvent se métropoliser, autant que les grosses. Je prends souvent un exemple, Lausanne, en Suisse, est une petite ville.
Elle est même très provinciale dans un certain sens. Mais c'est aussi une ville qui se métropolise considérablement. Pourquoi ? Parce qu'elle est le siège...
Par son ancrage au monde.
Elle est le siège du Comité international olympique. Elle est le siège de deux très grands établissements universitaires, l'Université de Lausanne et l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui connectent Lausanne au monde. Elle est le siège d'un théâtre, le Théâtre Vidi-Lausanne, qui est aussi d'un rayonnement européen, voire mondial. Elle accueille des populations qu'on pourrait appeler en première intention, en reprenant un concept qui est devenu presque un slogan, elle accueille des classes créatives, elle accueille des capitaux, elle accueille des flux, elle est en situation, vous voyez, de hub, en quelque sorte, oui. De connecteur avec des mouvements. Et donc, on peut voir comment des petites unités urbaines se métropolisent plus que certains amas urbains africains ou indiens de 2, 3, 4 millions d'habitants qui seront paradoxalement moins
métropolisés. Donc, le critère démographique ne suffit pas non plus.
Il est intéressant, mais il est très largement insuffisant.
Il y a une question qui se pose, Michel Lussault, c'est celle de l'inéluctabilité ou non de la métropolisation. Ce que vous dites, ça fait maintenant effectivement depuis une dizaine d'années, depuis 2008, qu'on est plus de la moitié à vivre maintenant dans des zones urbaines. La question est de savoir si ça va se poursuivre. Est-ce qu'il existe dans le monde des exemples de villes qui auraient rétréci sur le plan démographique, rétréci sur le plan du pouvoir économique et politique, et qui serait peut-être justement le signe que cette métropolisation n'est pas inéluctable et qu'on peut revenir en arrière d'une certaine manière, que c'est réversible?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, on peut considérer que la métropolisation, c'est l'imaginaire ou constituant dominant qui s'est imposé parce que c'est ce qui a été produit par les acteurs politiques, économiques et sociaux pour faire en sorte que les villes soient des relais efficaces de la croissance économique telle qu'elle était proposée par le modèle capitalistique qui s'impose à partir de 1980 et jusqu'à nos jours, que certains appellent le modèle néolibéral. Moi, je me méfie un peu de cette expression parce que c'est devenu un mantra qui dissimule un certain nombre de choses. Mais en gros, la métropolisation, c'est le mot qui peut être aussi utilisé pour définir l'adaptation des villes au mode dominant de production et d'accumulation de richesses. OK ? À l'intérieur de ça, on s'aperçoit qu'il y a des villes qui... résiste entre guillemets, mais pas au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire des villes qui sont peut-être à l'écart de ce mouvement. Quelles sont-elles? D'abord, il y a des villes qui connaissent un mouvement de crise tellement fort qu'elles deviennent en quelque sorte décalées, inadaptées, qu'elles ne se connectent plus à ce mouvement dominant. C'est ce que l'on a par exemple appelé les « shrinking cities », les villes qui rétrécissent, dont l'emblème a été Detroit, Détroit aux États-Unis, mais dont l'origine est à trouver, il faut le rappeler parce que c'est souvent oublié, aussi du côté des anciens, des pays anciennement communistes. Donc des villes de l'Est de l'Europe, des villes de l'ancienne Union soviétique, qui étaient des villes qui avaient été mises en place dans un cadre économique et politique très particulier et qui se sont en quelque sorte effondrées très rapidement. Et nous avons là des villes où il y a eu des phénomènes de crise économique et sociale tellement forts qu'elles n'ont pas pu se connecter à ce mouvement, qu'elles ont été en retard. Villes petites, villes moyennes ou anciennes métropoles. Détroit a été une ancienne grande métropole. Et puis il y a peut-être quelques cas très particuliers de territoires, si ce n'est de villes, où l'on a essayé de trouver une voie de passage politique de sortie volontaire de la métropolisation. Au risque de vous surprendre, par exemple, ce qui s'est passé dans le Chiapas, autour de la rébellion zapatiste, qui a essayé de définir des voies de développement territorial qui étaient, dès le départ, contre le processus de mondialisation et contre le processus d'urbanisation qui était dominant à l'époque au Mexique.
Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer que finalement Mexico n'est pas ce qu'on pensait que ça allait devenir ? Parce que dans les années 80-90, il y avait bien une ville dont on disait elle va exploser sur le plan démographique, c'est Mexico. On nous annonçait, je sais plus quoi, 30, 40, peut-être même 50 millions. Quand on regarde les projections dans les années 60-70, on nous disait ça va être 40 ou 50 millions à l'horizon 2000. En fait, en réalité, je sais plus à combien on est, mais on est on a tout juste atteint les 20 millions.
Une bourgade, oui.
Non, une bourgade, côté, peut-être pas, mais 20 millions pour ce qui est de la zone métropolitaine de la vallée de Mexico. Et j'ai regardé, du coup, en préparant cette émission, on nous annonçait 30 millions d'habitants à l'horizon de 2000. Donc, on s'est très clairement trompé.
On s'est trompé. Alors, parce qu'on n'a pas vu venir quelque chose qui a été l'urbanisation de l'Asie. qui a complètement bouleversé la carte mondiale de l'urbanisation. En gros, on n'a pas vu venir la puissance de l'urbanisation et la brutalité de l'urbanisation chinoise. C'est très intéressant que vous ayez commencé par un exemple à Shanghai. Nous avons vu là des développements urbains qui sont sans comparaison dans l'histoire avec la constitution d'un réseau dense de mégapoles qui dépasse les 10 millions, qui a complètement bouleversé la carte et qui a aussi donné de nouveaux modèles à l'urbanisation mondiale.
Alors, je vais en citer trois immenses zones urbaines en Chine. Le delta du Yangtze, 150 millions d'habitants. Le delta des Perles, 120 millions d'habitants. Et la métropole Jinjinji, qui est au sud de Pékin, on a environ là 100 millions d'habitants. C'est un autre cas qu'on a voulu vous soumettre, cher Michel Lusseau. On va aller dans une ville où bah, il semble qu'il n'y ait pas grand monde. Et pourtant, on est en Chine, hein, dans une, a priori, une grande ville. Enfin, c'est ce qu'on avait essayé de faire.
Ici, ça manque de services, d'hôpitaux, d'écoles. Et c'est un cercle vicieux. Tant qu'il n'y a pas assez d'habitants, on ne va pas faire ces investissements. Et tant qu'il n'y a pas ces investissements, il n'y a personne pour s'installer.
Il y a peu d'habitants. La plupart des clients sont des gens de passage. On ne gagne vraiment pas grand-chose.
On vient ici pour les week-ends, les vacances. Il y a très peu de gens qui ont leur domicile ici. Pour la grande majorité, ce sont des résidences secondaires.
Voilà, on est dans une ville qui se situe entre Pékin et Tianjin. On avait mis en place un programme de ville nouvelle et pourtant, eh bien, il y a quasiment personne, en tout cas pas grand monde. C'est ce qu'on appelle les villes fantômes en Chine. Vous connaissez évidemment ça très bien, Michel Lusseau. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce type de ville? Il y a plusieurs questions. Vous parlez tout à l'heure de la question de l'adaptation. Est-ce que ça veut dire que finalement, le modèle chinois n'est pas si adapté que ça au modèle libéral, capitaliste, et que donc on n'arrive pas à faire justement émerger ces villes-là? Et puis il y a une autre question aussi qui est celle de la manière dont les autorités chinoises auraient utilisé ou pas l'outil métropole pour se développer. Michel Lusseau.
Oui, la Chine est un cas très particulier, puisque la Chine est un cas où, de fait, l'urbanisation a été choisie par un pouvoir fort pour en quelque sorte, précipiter le développement du pays, tout en contrôlant très strictement ce développement.
L'urbanisation ou la métropolisation?
Les deux, mon capitaine, parce qu'il y a eu à la fois une urbanisation qui a été très forte, et partout en Chine, qui s'est manifestée par la volonté des autorités de promouvoir de très grands ensembles urbains, de taille globale, c'est-à-dire ces grands ensembles urbains devaient être le point d'appui du renouveau de la puissance planétaire de la Chine. Renouveau, parce que je rappelle quand même que pendant des siècles, jusqu'au XVIIe siècle au moins, la grande puissance mondiale, les historiens nous l'ont montré, la grande puissance mondiale, c'est la Chine. Donc, il y a un choix délibéré des autorités chinoises, dès d'ailleurs Deng Xiaoping, de faire des zones franches urbaines, les points d'appui d'un développement économique chinois qui permettrait à la Chine d'avoir une puissance planétaire. Donc, les villes en Chine, les mégapoles en Chine, sont des plateformes à la fois de développement de l'économie chinoise pour satisfaire les besoins des Chinois, mais aussi de développement de la puissance planétaire chinoise. Donc il y a eu un mouvement très particulier, tout ça dans un contexte de contrôle politique, de licence économique, mais de contrôle politique, et un contrôle politique qui a tendance vraiment à s'accroître ces 10 dernières années, hein, avec un contrôle politique aujourd'hui qui passe par des technologies numériques, qui est extrêmement fort et qui fait des mégapoles chinoises des drôles d'espace qui sont à la fois emblématiques de l'urbanisation mondiale, de ce qu'elle a provoqué, de sa puissance. On y retrouve absolument tous les ingrédients de la métropolisation. Des grands projets architecturaux urbains, la concentration des hautes technologies, l'accueil des classes créatrices, le développement du tourisme, l'emphase sur la culture, la recherche de la patrimonialisation.
Mais il manque quelque chose.
Les questions environnementales, mais dans un contexte qui est un contexte de contrôle politique très fort, où finalement, pendant très longtemps, le gouvernement chinois a pensé que si on satisfaisait les besoins de consommation immédiats, les besoins de logement de la population, tout irait bien. Sauf que cette population, même en Chine, aujourd'hui, commence à être assez critique par rapport à la médiocrité d'un certain nombre d'équipements, et notamment par rapport à la médiocrité d'un certain nombre de logements. Et on a quelques cas de villes fantômes en Chine, qui sont des échecs, mais qui renvoient aussi beaucoup au rythme très accéléré de la croissance. Et qui renvoie aussi à une réalité qu'on a peine à se figurer, nous, en Europe, c'est que la Chine connaît aujourd'hui une stagnation démographique. un vieillissement très fort, un surcontrôle des mouvements migratoires internes, ce qui fait que certaines villes ont vu leur bassin de recrutement se tarir, en quelque sorte. Donc la Chine, elle aussi, est à une étape un peu compliquée de sa croissance urbaine. On pourrait avoir l'impression que en Chine aussi, nous sommes à une fin de cycle. Alors, certains voient ça de façon positive, disent finalement le gouvernement chinois est en train de comprendre qu'on ne peut pas mégapoliser et métropoliser à marche forcée parce qu'on produit des contraintes environnementales, sociales, politiques énormes et la Chine va devenir, disent certains, le laboratoire des technologies vertes en matière de développement urbain. Certains sont plus pessimistes et disent mais finalement ce qui est en train de s'inventer en Chine aujourd'hui, c'est une métro-mégapolisation sous contrôle politique forte, très fort, eh bien c'est peut-être l'horizon de toutes les sociétés urbaines mondiales. En tout cas, nous sommes incontestablement à un tournant. Et je crois que ce tournant chinois est emblématique de ce que vous évoquiez tout à l'heure dans votre ouverture d'émission. Sans doute sommes-nous aussi en train de connaître une fin de cycle de métropolisation et d'urbanisation.
Et fin de cycle de quoi ? Cycle économique, cycle démographique. Je vous pose la question, et je me réfère au dernier ouvrage que vous aviez écrit, Hyperlieux. Dans votre introduction, vous expliquez que ces hyperlieux constituent, alors je vous cite, des points d'ancrage des individus et des groupes, c'est-à-dire tout à la fois des haltes qui les accueillent et des tremplins pour de nouveaux départs. Vous parliez de la ville de Venise. Et vous affirmez, je vous cite encore, que vous avez construit cette investigation à partir de la question du local, qui occupe de nouveau le centre de la scène. Et effectivement, le local, on le voit, il fait un retour en force ces dernières années. On l'a vu quand même de façon extrêmement criante au moment des élections européennes, on en sort tout juste. Et même un retour au fond du localisme, plus que du local, qui est devenu vraiment la pierre angulaire au fond des nationalismes, des populismes un peu partout dans le monde, de l'Amérique à l'Europe, on a vu ça assez largement. Est-ce que ce retour au fond du local et même du localisme peut remettre en question ce phénomène de métropolisation, finalement le moment populiste, nationaliste, on l'appellera comme on veut, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, est-ce qu'il serait aussi le moment de la démétropolisation d'une certaine manière?
Alors c'est compliqué parce que ce retour du local dans les situations urbaines très métropolisées s'accompagne du maintien de quelque chose qu'on a vu hier lors des élections européennes, c'est-à-dire que globalement les métropoles sont plutôt dans leur vote plus progressistes et moins souverainistes que leurs arrière-pays qui ne sont d'ailleurs plus leurs arrière-pays. C'est-à-dire que les métropoles, et c'est peut-être une des caractéristiques, ont souvent décroché de leurs arrière-pays de proximité.
Ce qui se comprend, puisque ce sont les premiers bénéficiaires de la mondialisation et que c'est de ça dont il est question. Ils sont à la fois les moteurs et les effets de la mondialisation, ces villes.
Dans une certaine mesure, la géographie du monde, les nouvelles géographies de la mondialisation, c'est une géographie urbaine. C'est-à-dire, c'est la géographie des métropoles interreliées, beaucoup plus que la géographie des territoires de jadis ou la géographie des États. C'est bien peut-être le fondement d'une crise politique. Finalement, la crise politique que nous traversons, c'est une crise de la géopolitique classique, c'est une crise des territoires à l'ancienne, c'est-à-dire les États et les campagnes. Mais ça n'est absolument pas une crise des métropoles qui partout s'affirment plutôt comme des lieux de créativité, d'innovation, d'ouverture culturelle, même si ça ne va pas sans tension. Non, ce que je dirais que c'est ce retour du local, il montre sinon une sortie de la métropole, du moins l'apparition d'un désir de faire évoluer cette urbanisation et cette métropolisation vers autre chose. Et on voit apparaître une sorte de convergence de critiques par rapport à ce que la métropolisation triomphante, radieuse, heureuse a été entre 1980 et 2008. Disons, en général, j'ouvre cette période de la métropolisation triomphante avec l'arrivée de Thatcher Reagan au pouvoir et je la ferme avec la crise de 2008. Et ces conséquences qui durent jusqu'à nos jours. On peut voir apparaître des critiques aujourd'hui que nous ne pouvions pas observer il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ces critiques, quelles sont-elles? Et de ce point de vue-là, une autrice comme Saskia Sassen, dans Global Cities, qui est écrit finalement il y a plus de 20 ans...
Qui est une sociologue et économiste néerlandaise.
Voilà, néerlandaise, travaillant à l'Université de Columbia.
Qui avait écrit Global Cities en 91. Non, je me rappelle.
Donc il y a plus de presque 30 ans aujourd'hui, elle avait déjà pressenti un certain nombre de choses. Et de ce point de vue-là, nous lui sommes tous et toutes redevables de quelque chose. Une critique sur le modèle économique. Incontestablement, un certain nombre de personnes se disent « mais finalement, cette économie urbaine, mondialisée, qu'on nous a vantée comme la seule possible, est-elle véritablement la seule possible ?» Une critique sociale Vous l'avez évoqué aussi dans votre entrée en matière. Finalement, cette métropolisation, n'est-ce point le principal vecteur de l'accentuation des inégalités sociales et du fait que les inégalités sociales deviennent insupportables dans certaines métropoles, avec des riches qui deviennent de plus en plus riches et des trappes de pauvreté qui apparaissent de plus en plus spectaculaires. Une critique environnementale. Finalement, cette métropolisation qu'on nous a vantée, n'est-ce pas aussi par elle que les effets des activités humaines sur les équilibres environnementaux apparaissent les plus évidents. Une critique architecturale urbaine. Finalement, la métropolisation n'a-t-elle pas non plus poussé, à travers la promotion d'un certain type de projet architecturaux urbains, à la standardisation des paysages, à la banalisation des paysages? On retrouverait un peu toujours la même sauce architecturale et urbaine, quel que soit le plat urbain où on la consomme. Une critique culturelle. Finalement, cette métropolisation qu'on nous a présentée comme l'apparition du monde meilleur qu'on pouvait imaginer, ne pouvons-nous pas la questionner? Ne pouvons-nous pas inventer une autre culture de la cité? Donc tout ça converge. Ce sont des critiques peut-être à bas bruit parfois, mais ne sommes-nous pas en train de sortir de l'imagination victorieuse et triomphante de la métropolisation pour entrer dans quelque chose d'autre qui n'est pas une désurbanisation, mais peut-être l'invention d'autres imaginaires urbains?
Alors on va peut-être pas reprendre toutes les critiques, mais il y en a deux sur lesquelles je voudrais vous entendre et qu'on approfondisse un tout petit peu. La critique économique. Ceux qui prônent précisément le localisme sont-ils réellement, possiblement, des agents de la démétropolisation? Parce qu'en général, le plus souvent, pas tous, mais ils sont souvent des libéraux en termes économiques, voire des ultralibéraux, pas tous, hein, peut-être pas ici, mais par exemple en Europe de l'Est, c'est le cas. Et le libéralisme, ça fait pas forcément bon ménage avec le localisme.
Certes, mais partout, y compris chez ces libéraux-là, et c'est ce que j'ai voulu exprimer aussi dans Hyperlieu, partout, on voit des acteurs économiques, parfois très critiques du capitalisme, parfois pas du tout, s'emparer des mêmes sujets. Et c'est ce sujet, par exemple, c'est le sujet des circuits courts, de la localisation de la production, des cycles de matière, de la sobriété des processus de production. Toutes ces réflexions, elles existent. Certains les critiquent parce que ceux qui sont anticapitalistes estiment que c'est la manière dont le capitalisme essaie de verdir son discours, mais il n'en reste pas moins que partout on voit converger des intérêts pour les économies symbiotiques, pour les métabolismes urbains, pour le cycle des productions, pour aussi parfois un autre type de partage de la valeur. Le fait que on peut avoir des économies productives, mais qui ne soient pas des économies sous la domination des intérêts de la finance, ce sont aussi des thèmes qui sont pris en charge au risque de surprendre par des libéraux. Donc il y a le début d'une convergence, ça ne veut pas dire, vous savez, convergence ne veut pas dire consensus ou unanimité. On voit apparaître quelque chose de l'ordre de, mais finalement ce développement néolibéral qu'on nous avait promis comme le seul possible, est-ce vraiment le seul possible? Il n'est pas sûr.
Sur la question environnementale, justement, d'un côté, on pourrait considérer que la métropolisation, c'est une catastrophe environnementale, parce qu'évidemment, ça produit de la pollution, parce que ça détruit la biodiversité. Et en même temps, on pourrait aussi considérer que c'est un très bon moyen de partager les ressources, que c'est un bon moyen aussi d'avoir des politiques peut-être aussi plus protectionnistes, voire carrément préservationnistes sur les autres territoires. Donc finalement, au bilan, Michel Dussault, la métropolisation, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle du point de vue écologique, du point de vue environnemental?
Alors, on pourrait dire que l'urbanisation, et la métropolisation en particulier, c'est à la fois le terrain d'épreuve pour l'environnement, parce que incontestablement nous avons eu des formes de développement urbain qui depuis une trentaine d'années ont considérablement accru un certain nombre d'impacts sur les systèmes biophysiques, mais c'est aussi un terrain d'épreuve dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est aussi un terrain d'expérimentation. Et beaucoup plus peut-être que les espaces agricoles, les espaces productifs agricoles classiques qui sont entièrement dévolus à l'agro-industrie contemporaine et qui mettront peut-être beaucoup plus de temps à muter que les espaces urbains. Donc, moi, je fais plutôt le pari que nous sommes en train d'entrer dans une phase où, sans désurbaniser et sans peut-être même démétropoliser au sens strict du terme, on va altermétropoliser dans une certaine mesure. C'est-à-dire, on va inventer d'autres manières de considérer la production, le partage de la richesse, la gestion des inégalités sociales, le développement des activités technologiques, l'environnement, et on va en faire un nouveau paquet, un nouveau système qui va permettre de redéfinir des politiques qui prendront toujours comme point de départ le fait que l'espace local doit être considéré comme un espace à la fois d'épreuve et d'expérience vers lequel toutes les valeurs ajoutées des processus politiques doivent se tourner.
On est avec Michel Lussault dans cette semaine consacrée au nouvel empire des villes. Aujourd'hui, quand les métropoles façonnent le monde, on va prendre la direction dans un très court instant de l'Inde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On manque de place, on manque d'infrastructures, on manque de tout. Encore aujourd'hui, 30 à 40% des gens de Bombay vivent dans des bidonvilles simplement parce qu'ils ne peuvent pas se payer de plus grandes maisons. Ils doivent s'accommoder de là où ils vivent ou bien déménager loin à l'extérieur de la ville. Mais acheter un appartement, c'est absolument impossible pour eux. Bombay est la capitale financière de l'Inde. Il y a une énorme demande par rapport à l'offre. Par exemple, si vous regardez les immeubles derrière moi, tous les appartements sont achetés avant même que la construction ne commence.
Allez, on va prendre la direction de l'Inde pour s'intéresser au développement des villes indiennes. On va retrouver Marie-Hélène Zera depuis Delhi, qui est directrice de recherche de recherche pour le développement. La première chose qui frappe Marie-Hélène Zera quand on s'intéresse aux villes indiennes, c'est leur taille. Quand on regarde le classement des 10 villes les plus peuplées du monde, j'ai fait ça sur populationdata.net, deux d'entre elles sont des villes indiennes. Il y a Delhi, 26 millions d'habitants, et Bombay, 24 millions d'habitants. Et l'Inde, c'est le seul pays à placer deux villes dans ce top 10. Même la Chine ne le fait pas, parce qu'il n'y a qu'un seul représentant, c'est Shanghai. Et par ailleurs, ces villes ont aussi grandi très vite. La ville de Bombay, par exemple, elle abritait moins de 10 millions d'habitants au début des années 90. C'était à peine 7 pour Delhi. Alors, est-ce que ce phénomène va se poursuivre, Marie-Hélène Zera? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'ici, je ne sais pas, 15-20 ans, eh bien, ces villes atteignent 40, 50 millions d'habitants?
Effectivement, on a tendance toujours à imaginer que l'urbanisation indienne, elle se passe essentiellement dans cette très, très grosse métropole. Et alors, Mumbai et Delhi, évidemment, ce sont vraiment aujourd'hui, ce sont devenus des immenses conurbations urbaines qui dépassent plus de 20 à 25 millions d'habitants et qui continuent effectivement de grandir, mais essentiellement par l'extension de leur périphérie. Il y a une expansion spatiale, en fait, en dehors de leurs limites administratives. Effectivement, je pense qu'on va avoir une augmentation des grandes villes simplement parce qu'il y a un croît naturel, une croissance naturelle de la population qui est importante. Mais s'intéresser aux villes indiennes, c'est aussi essayer de comprendre que l'urbanisation de l'Inde, en fait, c'est un phénomène extrêmement complexe et protéiforme. C'est-à-dire que l'urbanisation ne se passe pas seulement dans les grandes métropoles. On a tendance à penser que la croissance urbaine, la transition urbaine, elle se fait par un mouvement migratoire vers les très grandes métropoles. Or, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, la croissance des métropoles a tendance un petit peu à s'essouffler. On en a de plus en plus parce qu'on a un effet de croissance qui est lié au fait que la croissance de la population continue d'augmenter et qu'on a quand même un petit peu de migration. Mais on a aussi un immense phénomène d'expansion spatiale, c'est qu'on va avoir de grandes conurbations urbaines. Mais on a aussi, en fait, c'est un vieux système urbain, là, c'est une des plus vieilles civilisations urbaines au monde. Et donc on a un système de petites villes qui reste extrêmement résilient et qui peuvent être à la fois des villes innovantes, qui s'inscrivent en fait dans des réseaux de production globaux et auxquels on ne pense pas très souvent. Il y a aussi des petites villes qui gardent en fait une fonction de marché, si vous voulez, un petit peu comme des chefs de canton ou des chefs de département, des villes de département, qui ont des fonctions administratives. Et puis aussi, en fait, dans les 10 dernières années, l'essentiel de la croissance, une grande partie de la croissance urbaine en tout cas, c'est fait dans des villages qui s'urbanisent, c'est-à-dire dans une forme d'urbanisation sur place, si vous voulez, une forme d'urbanisation in situ.
Si je vous comprends bien, le phénomène d'urbanisation en Inde pourrait se poursuivre par le truchement des petites villes en réalité, et pas forcément par les grandes.
Eh bien, en fait, on a un phénomène multiforme, multidimensionnel. Donc on a un phénomène de grandes villes Mais si vous voulez, Mumbai, par exemple, le centre de Mumbai a perdu un petit peu de population dans les 10 dernières années. Mmh. Donc la croissance des grandes villes, elle va se faire en dehors, dans les périphéries, donc avec vraiment une augmentation du bâti assez rapide, mmh. et pas forcément par une densification très très forte dans les centres des métropoles. Et puis on a aussi effectivement une croissance qui passe par les petites villes indiennes, qui s'explique entre autres par les conditions économiques de la croissance indienne, par le fait qu'il n'est pas si facile que ça de migrer. Et puis on a surtout aussi une forte urbanisation des campagnes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des villages qui se transforment sur eux-mêmes.
Alors,
ça a représenté quasiment 30% de la croissance dans la dernière décennie dans laquelle on a mesuré la croissance urbaine.
Vous parlez, Marie-Hélène Zéra, de la question de l'économie. Parce que si les gens viennent dans les villes, c'est parce qu'ils y trouvent de meilleures conditions de vie et notamment parce qu'ils y trouvent des emplois. Donc pour que les villes, grandes ou petites, puissent continuer à accueillir de nouvelles populations, il faut qu'elles soient en capacité précisément de créer des emplois. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'économie indienne telle qu'elle existe aujourd'hui peut continuer à créer des emplois dans les villes?
Alors l'économie indienne, vous le savez certainement, est une des économies qui croît le plus rapidement à l'échelle mondiale, mais en fait c'est une croissance... sans emploi, une croissance qui a du mal à produire beaucoup d'emplois. C'était d'ailleurs un des thèmes qui a été posé là dans les derniers mois précédant l'élection dont on a eu les résultats. Et cela explique en partie, enfin ça c'est une thèse que je défends avec un certain nombre de collègues, nous avons travaillé beaucoup sur ces petites villes, sur le fait que ces petites villes, si vous voulez, elles servent un petit peu soit de staff, c'est-à-dire que c'est un premier pas pour aller après dans des grandes métropoles quand on a acquis un peu plus de capital éducatif ou de capital social, mais aussi parce que c'est un endroit où les gens peuvent en fait créer leur emploi, c'est-à-dire qu'on a une croissance, comme on n'a pas beaucoup d'emplois formels dans le secteur formel, c'est l'emploi informel qui vraiment domine aujourd'hui, et donc on a une capacité, enfin les gens s'organisent, ils créent leurs emplois essentiellement dans des services comme... le transport, le paratransport, vous voyez, les petits transports pour connecter dans un département, après des activités de service, beaucoup d'emplois dans la construction qui a porté la croissance de l'emploi. Et donc, on a il y a beaucoup d'auteurs qui parlent du fait que les grandes villes ne sont plus capables d'intégrer des nouvelles populations migrantes. Et d'ailleurs, si on regarde les taux de migration, que ça, c'est encore un mythe qu'on a en général quand on parle des villes indiennes. En fait, le taux de migration explique à peine un tiers de la croissance urbaine, même pas, en fait, je crois 22%, 22, 23% dans la dernière décennie. Et c'est un taux qui n'a pas tellement bougé. Donc, on n'a pas du tout un phénomène de croissance dans les grandes villes. Et même les migrants qui viennent dans les grandes villes sont souvent ceux qui sont le plus éduqués, en fait. Il faut pas imaginer que ce sont les paysans pauvres ou les paysans qui ne veulent plus travailler la terre, qui vont dans les grandes villes. Ceux qui ne veulent plus travailler la terre, qui quittent l'emploi agricole parce que ce n'est pas du tout productif, en général vont justement dans ces petites villes.
Et alors justement,
expliquent une partie de leur croissance.
Et alors, quelles sont justement les politiques qui sont mises en place pour organiser l'accueil de ces nouveaux arrivants? Les mesures au niveau des États, puis aussi au niveau fédéral, pour l'encadrer? Parce que la question qu'il y a derrière, c'est aussi de savoir si au fond les autorités cherchent à contenir ou à favoriser cette urbanisation.
Si vous voulez, à partir, on peut dire que c'est un petit peu une rupture à l'échelle mondiale, hein, on a vu ça partout dans le monde, en particulier en Chine évidemment. À partir des années 90, on a vraiment l'idée que les villes et les grandes villes en particulier, donc justement les métropoles dont vous parliez en début d'entretien, ce sont elles qui vont produire la croissance, ce sont elles qui vont être les moteurs de la croissance, qui vont être les moteurs d'une réduction rapide de la pauvreté, et puis de transformation économique vers des secteurs à haute valeur ajoutée. Donc on a eu vraiment un ensemble de politiques publiques qui ont favorisé ces grandes villes, avec des programmes d'investissement pour les infrastructures très importantes. L'idée, c'était que l'Inde avait vraiment des carences en matière d'infrastructures et qu'il fallait donc mettre à niveau les villes indiennes. Et puis évidemment, une forme de théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'on aurait une amélioration de facto, si vous voulez, des conditions de vie. Puis après, on a eu un mouvement vers des politiques un peu spatiales, c'est-à-dire de créer des sortes de zones économiques spéciales dans les grandes périphéries, voire même de créer des villes nouvelles. Et c'est seulement maintenant et encore qu'on se rend compte que la plupart des financements ont donc touché de manière très biaisée les grandes villes et avec, si vous voulez, un angle mort. C'est-à-dire que les politiques publiques dans les petites villes ont été très faibles, très peu d'investissements. Et comme les villes indiennes sont très peu puissantes fiscalement ou politiquement, en fait, elles sont vraiment restées très démunies et donc peu d'investissements.
C'est toujours le cas avec Narendra Modi parce que, vous l'avez dit, hein, le BJP, le parti national hindou, a assez largement remporté les élections générales, ce qui permet à Narendra Modi d'être reconduit au poste de Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, en termes de politique d'urbanisation et en particulier pour ces petites villes dont vous disiez que finalement, elles étaient peut-être un petit peu abandonnées?
En fait, c'est assez étonnant parce qu'en matière de politique urbaine, on peut dire qu'il est relativement, moi, il me semble en tout cas que les politiques d'infrastructure qu'il a développées était relativement dans la poursuite et dans la continuité de ce qu'a fait le gouvernement précédent, le gouvernement de Manmohan Singh. En revanche, il a beaucoup insisté sur la question de l'assainissement avec un grand programme de construction de toilettes publiques et puis aussi avec le lancement en 2015 de la politique des villes intelligentes. Donc, qui renvoie, si vous voulez, à ce fétichisme un peu moderniste de transformer les villes indiennes pour en faire des villes intelligentes et dans lesquelles on trouve effectivement des villes de taille moyenne. Moi, quand je vous parle de petites villes, je parle aussi d'un échelon vraiment très bas, ce sont des villes vraiment en dessous de 100 000 habitants. Et effectivement, il y a une idée de transformation, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée peut-être de faire basculer tous ces gros villages urbanisés qui peuvent être des villages de 50 000 personnes, d'en faire des villes, d'en faire des collectivités locales urbaines. Mais pour l'instant, il y a encore insuffisamment peu de financement et ça passe encore par les projets d'infrastructures classiques. Donc il n'y a pas vraiment de politique industrielle, si vous voulez, pour ces petites villes. C'est ça qui serait important, c'est de soutenir les économies. Dans ce cadre-là, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose parce que la politique qui s'appelle Skill India, qui en fait vise à améliorer les compétences des travailleurs, etc., et pour l'instant, n'est pas vraiment une réussite.
Voilà, Marie-Hélène Zera avec nous depuis New Delhi, directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Michel Husseau, réaction sur ce modèle de développement urbanistique indien?
Oui, très 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 bonne remarque de ma collègue d'abord qui rappelle que le sous-continent indien, Pakistan, Inde, Bangladesh, Sri Lanka, dans son ensemble est un espace où l'urbanisation continue de croître à un rythme accéléré et l'Inde en particulier.
Par le truchement des plus petites villes.
Et qu'il y a un certain nombre de mouvements que l'emphase sur la métropolisation ne doit pas nous faire oublier. D'abord le mouvement de périurbanisation qui est généralisé partout, mais aussi le fait que ça passe par les petites et les moyennes villes, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et c'était également le cas, nous en reparlons peut-être, en Afrique, où on constate exactement la même chose. Et puis, un autre point qu'elle a très bien évoqué, c'est que, et qui s'applique à l'Inde, mais qui pourrait s'appliquer à la plupart des pays dans le monde, y compris la France, c'est que les pouvoirs publics et les acteurs économiques qui ont établi avec ces pouvoirs publics un mode de ce qu'on a appelé la gouvernance métropolitaine. Finalement, les métropoles, ça a été aussi des lieux d'expérimentation d'un gouvernement qui passait par l'association très intime, l'imbrication et parfois même la collusion entre des pouvoirs publics et des acteurs économiques qui étaient les acteurs économiques qui portaient les activités métropolisatrices et métropolisées. Eh bien, ces pouvoirs publics et les acteurs de la gouvernance ont eu tendance à délaisser les petites et les moyennes villes. Et elle a employé, je crois, le mot d'angle mort. Il y a incontestablement un angle mort des politiques et des actions économiques, des actions de promotion économique qui ont été faites partout au monde depuis 30 ans.
Y compris chez nous,
les petites et les moyennes villes. Et ça n'est pas un hasard si ce sont ces petites et ces moyennes villes où les problèmes sociaux, économiques, environnementaux, politiques, culturels, d'accès aux droits, d'accès aux équipements sont les plus forts.
C'est ce qu'on voit de façon extrêmement criante, notamment
en
ici
Europe.
En France. Vous parliez de l'Afrique, justement, on va prendre la direction de Accra, au Ghana. Voilà, ce qu'on entend là derrière, c'est une opération de décongestion. Alors, qu'est-ce qu'une opération de décongestion? C'est justement ce qu'on va regarder du côté d'Accra, la capitale du Ghana, la ville qui est passée de quoi 600 000 habitants en 70 à plus de 3 millions aujourd'hui. Bonjour Amandine Spire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, une spécialiste des questions urbaines et de migration en Afrique de l'Ouest. Vous avez fait plusieurs terrains à Accra ces dernières années. Accra qui s'est considérablement agrandi. Hein, Michel Lussault le disait, en Afrique aussi, les villes s'étalent, bien sûr. Vous expliquez que malgré les différents plans qui ont pu exister, on n'est pas parvenu à contenir l'étalement urbain. Ce qui ne veut pas dire que la municipalité, l'Accra Metropolitan Assembly, est dépassée. Au contraire, elle conserve un contrôle assez fort sur cet espace urbain. Et c'est notamment ce qu'on voit à travers la décongestion, qui est vraiment l'une des priorités de la municipalité. Vous nous expliquez ce que c'est qu'une opération de décongestion menée par la municipalité d'Accra ?
Oui, en effet, enfin, alors juste pour rebondir par rapport à ce qui vient de...
Amandine Spire, alors, on vous entend plus. On l'a perdu, on va la rappeler. Michel Lussault, alors je ne sais pas si vous êtes allé au Ghana, mais la décongestion, le déguerpissement en Afrique, en quelques mots, vous nous expliquez en quoi ça consiste?
Oui, le déguerpissement partout au monde, c'est une opération qui consiste pour des autorités publiques de faire déguerpir des populations qui ont occupé sans titre un certain nombre d'espaces résident dans ce qu'on appelle parfois, à tort d'ailleurs, des bidonvilles, ce qu'en anglais on appelle des slums, hein, des slums ou des taudis. Et nous avons là des populations qui occupent sans titre parce qu'en fait ce sont des populations qui n'ont souvent pas trouvé de résidence dans le marché standard, contrôlé, formel. Ils n'en ont pas trouvé parce que d'abord il n'y en a pas assez mis sur le marché, mais aussi parfois parce que partout au monde, la métropolisation a provoqué une inflation considérable du prix des résidences sur le marché officiel. Et donc partout au monde, on voit des populations néo-arrivantes, néo-urbaines, se trouver en grande difficulté pour accéder à la résidence, et on voit se multiplier des espaces qu'on appelle des espaces informels. Et le déguerpissement, c'est quand une autorité publique essaie de remettre la main sur ces espaces informels.
Et c'est parfois assez violent, avec des camions qui viennent carrément prendre les objets, les meubles. On a aussi des bulldozers qui viennent tout raser. Amandine Spire, que deviennent les personnes que l'on évacue de cet espace-là, parce qu'on considère qu'ils gênent, Amandine Spire?
Oui, merci.
Vous a retrouvé, je vous en prie.
Il s'agit à la fois donc d'opérations qui visent en effet des résidents qui, dans certains cas, ben,
alors attendez, parce que du coup, j'ai utilisé Michel Lussault, à qui j'ai fait expliquer justement de quoi il était question, à la fois sur la décongestion. Non, aucun problème, sur la décongestion et sur le déguerpissement. Alors la question qui se pose maintenant, c'est que deviennent les gens qui sont évacués, où est-ce qu'ils se retrouvent, dans la ville, et comment est-ce qu'ils réorganisent d'une certaine manière leur quotidien?
Voilà. Alors donc, quand il s'agit de résidents, ce qui peut s'agir à la fois de commerçants, d'activités économiques, en fait, donc des commerçants qui sont déplacés dans le cadre de projets de régénération urbaine, et notamment donc de décongestion, d'embellissement des espaces publics. Donc on essaye de récupérer l'espace public et donc on déplace des activités jugées indésirables. Et dans le même temps, il peut s'agir de résidents, en effet, qui sont déplacés. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, à l'urbanisme du bulldozer, que vous évoquiez à l'instant, c'est aujourd'hui ajouter de nouvelles formes de déplacement qui sont négociées, qui sont de plus en plus l'objet donc de compensations. Alors certes, ce n'est pas du tout systématique, mais de nombreux gouvernements urbains africains en particulier, parce que je travaille sur cette zone, en Afrique de l'Ouest en particulier, mettent aujourd'hui en place des procédures de compensation et donc une compensation soit en argent, soit avec un site de réinstallation, donc l'attribution d'une parcelle, généralement en périphérie, afin de répondre aux exigences des bailleurs internationaux qui imposent en fait ces compensations pour continuer à financer des projets urbains. Donc c'est aussi lié à ce mouvement de circulation internationale de capitaux et aux injonctions en fait des bailleurs des organismes internationaux.
Alors il y a les bailleurs, Amandine Spire, mais il y a aussi tout simplement les citoyens qui s'organisent, parce que c'est aussi le résultat d'une certaine pression de la société civile, en tout cas celle qui est concernée par ces déguerpissements et autres décongestions, qui s'organisent. Il y a des associations, il y a des ONG qui les aident à défendre leurs intérêts. Donc c'est les deux choses. Alors il y a des quartiers entiers, hein, Amandine Spire, où on a procédé à des décongestions ou à des déguerpissements. Par quoi est-ce que c'est remplacé? Qu'est-ce qu'on construit à la place? Et qui est-ce qu'on a derrière ce renouveau urbanistique? En l'occurrence, ce qui concerne Accra, au Ghana.
En ce qui concerne Accra, alors on a deux choses. On a d'une part des projets immobiliers souvent un peu chimériques dont on a entendu parler au cours de cette émission. Le front de mer qu'on cherche à transformer, enfin que le gouvernement urbain aimerait transformer en marina touristique.
Voilà, alors on a reperdu... Ah si, ça y est, on vous entend. Je vous en prie. Amandine Speer, on vous entend plus. Alors, on va essayer de refaire une liaison. Michel Lussault, je vais vous remettre au travail. Alors, une fois encore, Accra, c'est un exemple en réalité assez symptomatique. Ce qu'il y a derrière, c'est évidemment des investisseurs privés qui vont développer des quartiers, qui vont développer le tourisme, tous les secteurs économiques qu'on peut imaginer, avec peut-être en ligne de mire, précisément, l'intention d'accrocher ces espaces-là à la mondialisation. Au fond, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La métropolisation, c'est intimement lié au phénomène de mondialisation, de globalisation. C'est ça l'objectif derrière.
Et il ne faut jamais oublier quelque chose, c'est que la mondialisation que nous avons connue, urbaine, et la métropolisation, c'est aussi quelque chose qui fait que les flux financiers considérables, les capitaux énormes qui ont été accumulés et qui circulent, grâce à cette métropolisation, trouvent des emplacements. Voilà. Les placements financiers mondiaux sont souvent des emplacements urbains. Et il ne faut jamais oublier ce que souvent les économistes oublient, qu'une des bases, un des fondements de l'économie urbaine, la plus productive et la plus rémunératrice, ce ne sont pas les activités de haute technologie ou que sais-je, c'est l'immobilier. Donc partout on voit apparaître des opérations de spéculation, et Amandine Speer disait par exemple qu'à Accra on voulait développer des projets chimériques, notamment une marina. La marina, c'est un archétype en quelque sorte du paysage urbain de la mondialisation. Pourquoi ? Parce que partout on a vu des investisseurs faire de la marina de zones immobilières, d'immeubles de grande hauteur, des éléments de spéculation et de rentabilité.
Sauf qu'on a un problème, Michel Lussault, c'est que ces espaces-là, il n'y en a quasiment plus. Les littoraux, ils ont quasiment tous été aménagés, alors évidemment, il en reste.
Oui, bien
Mais
sûr.
On sait bien que la grande majorité des villes se situe précisément sur les littoraux, et que cet espace-là, visiblement essentiel en réalité à la globalisation, mais aussi à faire tourner l'économie, puisque vous nous dites, vous nous rappelez quand même à juste titre que c'est ce qui fait tourner le mieux l'économie mondiale. Cet espace-là, il est en train de se réduire à peau de chagrin.
En Europe, oui. Aux États-Unis, oui, peut-être, mais pas en Afrique, pas en Asie, pas en Inde. Il y a encore pas dans le Moyen-Orient. Il y a encore beaucoup d'espaces disponibles, hélas. Mais
donc on n'est pas à la fin du modèle.
Non, mais c'est là aussi on voit à quel point la métropole c'est un terrain d'épreuve, comme je le disais tout à l'heure, aux deux sens du mot épreuve, c'est-à-dire c'est peut-être là aussi où il va nous falloir inventer de nouvelles manières de concevoir les développements urbains.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas.
Les autres modèles de ville, on poursuivra évidemment dans cette semaine notre série consacrée aux villes et on aura l'occasion de les évoquer. Merci beaucoup Michel Lussault d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci également à Amandine Speer qui est avec nous par téléphone. C'était un peu compliqué, mais enfin, on la remercie d'avoir été avec nous. Je rappellerai la concernant l'étranger et la ville en Afrique de l'Ouest, Lomé au regard d'Accra, qui était paru chez Cartala. Vous concernant Michel Lussault, je rappelle Hyperlieu, sous-titré Les nouvelles géographies de la mondialisation. C'était Au Seuil, paru en 2017. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et votre chronique ce matin nous entraîne dans un zoo de Cincinnati. Il s'y est produit il y a quelque temps un fait divers qui a provoqué beaucoup d'émotions aux États-Unis.
Oui, alors c'était en mai 2016, au zoo de Cincinnati dans l'Ohio, un petit garçon très curieux parvint à se glisser sous l'enclos d'un magnifique gorille de 17 ans du nom de Harambe. Les gardiens du zoo ont décrit Harambe comme, je cite, « intelligent, courageux et curieux ». et ce sont sans doute ses qualités qui lui ont valu de se faire abattre d'un coup de fusil. Car le vieux gorille, très intéressé par le petit garçon, refusait de le rendre à ses parents. Or cet acte a déclenché une virulente polémique aux États-Unis. Une pétition exigeant que les parents coupables indirects par leur négligence de la mort du gorille soient traduits en justice. Elle a recueilli 500 000 de signatures. Et cet accident a provoqué un regain des débats autour de la question de la valeur morale de la vie animale et des responsabilités des humains que nous sommes envers les autres espèces. Ces questions éthiques délicates et controversées donnent lieu à une série d'articles et d'interviews passionnants dans le magazine Books, daté du mois de juin, qui sort donc cette semaine. Il y a déjà longtemps que les philosophes ont cessé de considérer l'homme, doté de la science, comme maître et possesseur de la nature, comme l'affirmait Descartes. Ce dernier considérait les animaux, on sait, à peu près comme des machines. Mais déjà au siècle suivant, Jeremy Bentham, le père de l'utilitarisme, écrivait, je cite, « Le jour viendra peut-être où le reste des animaux de la création acquérera des droits que seule une main tyrannique a pu leur retirer. La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» Peter Singer, philosophe australien et l'un des pionniers de la réflexion sur les droits des animaux, s'inscrivait dans cette mouvance utilitariste. L'objectif qu'il fixait était de minimiser autant que possible la souffrance et donc aussi celle des animaux. Et de ce point de vue, tuer des animaux pour en manger la chair, puisque nous sommes une espèce omnivore, lui posait moins de problèmes à vrai dire que le fait de parquer les animaux dans des conditions épouvantables. Mais il semble qu'on soit sorti de ce cadre, l'utilitarisme donc, et que la question de nos devoirs envers les animaux soit à présent réexaminée par les philosophes dans une perspective kantienne.
C'est notamment le cas, Brice, de la philosophe américaine Christine Korsgaard qui enseigne l'éthique à Harvard.
Oui, elle a publié tout récemment un ouvrage au titre provocateur « Fellow Creatures », qu'on peut traduire presque comme « nos congénères » ou encore « ces créatures auxquelles nous sommes associés ». Sous-titre de son livre, c'était « nos obligations envers les autres animaux ». Alors, Kant lui-même, on le sait, avait établi un lien entre l'empathie qu'on doit éprouver envers les animaux et le degré d'humanité dans l'homme. L'homme qui est capable de cruauté envers les animaux sera aussi capable de dureté envers ses semblables, écrivait-il. Mais Christine Korsgaard entend dépasser cette leçon pour aller vers une véritable éthique de l'égalité animale. Certes, admet-elle, seuls les humains peuvent être considérés comme des êtres rationnels et autonomes, les termes kantiens, seuls aussi ils sont susceptibles d'établir et de respecter des lois morales. Et de ce point de vue, les animaux, non, ne sont pas nos semblables. Mais faire des animaux des moyens pour nos propres fins, comme les élever pour les tuer et les manger, contredit notre propre capacité à évaluer rationnellement leurs intérêts à eux. En outre, nous ne sommes pas seulement des êtres rationnels, mais aussi des êtres sensibles. Et à ce titre, nous devrions tirer les leçons des expériences récemment menées sur la souffrance animale. Or, celle-ci est indéniable, même probablement chez les poissons, figurez-vous. Dans le même numéro du magazine Books, on lira avec intérêt une interview du fameux primatologue Frans de Waal. Pour lui, il ne fait aucun doute que beaucoup d'animaux éprouvent des émotions. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils ressentent, et il est sans doute abusif d'évoquer à leur propos des sentiments. Mais beaucoup d'animaux éprouvent manifestement la peur, l'empathie. Et plus étrange, se manifeste chez plusieurs espèces un véritable sens de l'équité. C'est ce que révèlent en particulier les sciences cognitives. On a beaucoup progressé, selon Frans de Waal, sur les expressions faciales de certains animaux. Ses équipes mènent en ce moment des études sur les expressions faciales chez les souris et chez les rats. Les congénères de ces espèces savent décrypter certaines expressions. D'autres études menées sur des singes, auxquels on propose des visages d'autres singes sur des écrans en leur demandant de choisir ceux qu'ils préfèrent retenir, montrent qu'ils perçoivent fort bien ces nuances expressives. Alors oui, on peut le dire, notre regard sur les animaux est en train de changer de manière radicale, à lire donc ce numéro de Books du mois de juin.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.